Jean-Philippe Beaulieu, tout le monde peut applaudir. Bonsoir Jean-Philippe. Je crois que tu dois être un des premiers conférenciers à venir s'exprimer un mardi 1er avril dans ce cycle de conférences. Jean-Philippe travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, donc il est dans nos murs. Comme vous le verrez, il travaille sur les céphéides. En fait, il a travaillé sur un sujet extrêmement excitant. Il a commencé à travailler sur un sujet qui relève de la quelque chose de très, je sais pas, très un projet qu'on appelait Eros,
qu'on appelle toujours,
très très très, très sexy, et en particulier des oui c'est vrai, et en particulier donc il a fait sa thèse autour de ce sujet là ensuite donc je crois pour toutes ces raisons on l'a gardé ici. On s'est dit, c'est quelqu'un qui en plus sait jouer de la musique, s'intéresse à la musique, il y a toute une série de cordes à son arc. Si je me trompe, tu corrigeras. Et en tout cas, je crois qu'il marque une pause en ce qui concerne l'expérience Eros en ce moment, pour je ne sais plus quel autre sujet.
Dans l'instant, je cherche des planètes par effet de l'antigravitation.
Voilà. Donc, c'est aussi un sujet qui n'est non pas à la mode, mais qui est parfaitement adéquat, parce que nous avons des instruments et des modèles théoriques qui permettent de penser l'existence des planètes autour d'autres étoiles. Donc aujourd'hui, il va nous parler des céphéides et comment les céphéides, qui ont une longue histoire dans l'astronomie, puisque c'est grâce à elles qu'on a réussi à découvrir notre appartenance à un univers de dimension très vaste, et bien comment ces céphéides ont permis de contraindre la constante de Hubble. Jean, on peut commencer ? On peut y aller ?
Je te laisse. Merci. Daniel ? Voilà, donc ce soir, j'ai choisi un titre un peu racoleur, « Céphéides et la constante de Hubble ». Mais en fait, ce n'est pas tout à fait de ça dont je veux vous parler, puisqu'on est aujourd'hui le 1er avril. Donc, nous allons tenter une forme de conférence un peu expérimentale. Je vais essayer de présenter les choses différemment de ce que l'on fait d'habitude. Alors, une première remarque un petit peu différente, c'est aussi, je cite les quatre personnes qui, dans l'ombre, en fait, ont quelque peu contribué à ce que je vais vous raconter ce soir. Donc, céphéides, la musique des sphères. Alors, il faut quand même vous prévenir un petit peu sur l'enchaînement de ce qui va suivre. Donc, nous allons avoir d'abord une première vision théorique sur les céphéides. On va commencer par qu'est-ce qu'on en sait en 2003, assez simplement. Ensuite, on va faire un bond dans le passé, on va remonter en 1784. Et puis après, je vais insister sur ce que les céphéides ont fait pour la mesure de la vitesse d'expansion de l'univers. Ça va donc être une vision complètement biaisée, parce que si je devais parler de la constante de Hubble, je pense qu'on pourrait passer une journée à parler de ça. Donc je vais parler uniquement des céphéides et je vais me moquer complètement du reste. Et bien entendu, il y aura quelques petites surprises. Donc, alors, qu'est-ce qu'une céphéide ? Donc là, vous avez... Alors, la figure que vous avez là est un peu compliquée, mais en fait, elle est surtout pour moi, pour m'aider à me rappeler ce que je dois vous dire. Donc, une céphéide, c'est une étoile, donc entre 2 et 50 fois la masse du Soleil, typiquement, qui est jeune, brillante, et c'est une étoile variable périodique, c'est-à-dire sa luminosité varie au cours du temps. Alors, elles ont des périodes qui s'étalent de, par exemple, 2 jours à une centaine de jours. Et elle varie sur des échelles de luminosité qui sont très importantes. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est quand on prend une sphère de gaz, donc une étoile qui vient de naître, elle est d'abord sur ce que l'on appelle la séquence principale. C'est-à-dire, c'est la phase dans laquelle elle est en train de brûler l'hydrogène dans son cœur. Et puis, donc c'est l'état dans lequel est notre Soleil, par exemple. Et puis, quand l'hydrogène au cœur est... Et comment dire, quand il n'y en a plus, à ce moment-là, donc il y aura une petite réorganisation de la structure, et l'étoile va baisser en température et va commencer à brûler son hydrogène en couches. Puis ensuite va passer par une phase de géante rouge, donc là elle va être très très beaucoup plus étendue et beaucoup plus froide et aussi beaucoup plus lumineuse. Et ensuite elle va commencer à brûler son hélium. Donc ce trajet que vous pouvez voir sur le diagramme. Donc là, vous avez la phase dite séquence principale, quand elle est en train, Alors, c'est un diagramme qui montre la température en fonction de la luminosité. Donc, on voit ce que je vous avais dit. Donc, la température varie un petit peu quand elle est en train de brûler son hydrogène tranquillement. Ensuite, rapidement, elle brûle son hydrogène en couche. Elle devient très lumineuse en devenant une géante rouge. Et ensuite, elle redescend. Elle redevient un peu plus chaude. Et là, dans cette phase-là, elle est en train de brûler son hélium au cœur. Quand elle est en train de brûler son hélium au cœur, elle est dans un état physique particulier. Et à cause de cet état, des pulsations vont pouvoir commencer à se développer. C'est uniquement parce que l'évolution la met dans ces conditions-là qu'elle va pouvoir commencer à pulser. Donc ça, c'est valable en fait pour un grand nombre de types d'étoiles. Donc il y a les céphéides, qui sont des étoiles massives, jeunes, qui pulsent. Il y a aussi ce qu'on appelle les céphéides W Virginis, qui elles sont des très vieilles étoiles, qui sont en fait très peu massives, genre une masse solaire, mais avec des enveloppes très étendues. Elles aussi, elles pulsent de manière assez régulière. Elles ressemblent pas mal aux céphéides, mais en fait, ce sont des objets très vieux, donc quand même dans des états d'évolution très différents. Donc la chose qu'il faut que vous reteniez de ça, c'est une étoile, au cours de sa vie, va se retrouver à un certain moment dans des conditions de luminosité, de température et de masse, où en fait des pulsations vont pouvoir commencer à se développer. L'évolution la met là, et à ce moment-là, elle commence à pulser. Et donc, il y a différents types de pulsations, comme je vous ai dit. Donc, il y a les céphéides, donc ces étoiles jeunes et brillantes, massives. Les W Virginis, ça ressemble à des céphéides, c'est beaucoup moins massif et c'est très vieux. Et il y a aussi les RR Lyrae, ça c'est la même famille. Elles sont encore moins massives, genre 0,5 fois la masse du Soleil, et elles pulsent avec des périodes de 0,5 jours. Bon, donc maintenant on va parler un petit peu de musique. Alors contrairement à ce qu'a dit Daniel, je ne suis pas du tout un spécialiste de musique, mon truc c'est plutôt l'astro, mais je vais quand même vous en parler un petit peu parce que vous allez voir, ça a quand même un intérêt pour ce qui va suivre. Donc qu'est-ce qui caractérise une note de musique ? Sa hauteur, donc la note, on peut dire c'est la fréquence principale. Son intensité, donc si vous faites un petit but ou un beau, enfin quelque chose de beaucoup plus fort. La durée et le timbre. Le timbre, c'est en fait les propriétés de l'instrument de musique. Et un son est toujours composé d'une fréquence principale plus les harmoniques. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une fréquence propre, une fréquence, et puis des multiples de cette fréquence qui vont apparaître dans le son que vous écoutez. Et c'est la façon dont, par exemple, la trompette va être construite qui va vous donner des sons plus ou moins propres. Alors, il y a aussi une petite chose à garder en tête, c'est en musique, les fréquences des notes ne sont pas réparties du tout au hasard. Donc, dans une note cantate, il y a un rapport de 1 entre, par exemple, un do et puis le do suivant. Et en dessous, vous pouvez voir différents exemples de rapports. Le rapport entre le do et le ré, le do et le mi, le do et le fa, etc. Donc tout ça, ce sont, on peut dire, des rapports rationaux, et ça fait que, finalement, l'être humain aime bien ce genre de son. Donc maintenant, nous allons passer un petit peu à la musique, proprement dite. Donc on va parler maintenant un petit peu de trompette, de tube et de didgeridoo. Qu'avez-vous remarqué dans la différence de ces deux sons ? Il y a plusieurs choses qui se sont passées. La première, les sons des deux instruments ne sont pas exactement les mêmes. Et la deuxième, dans un cas, le son était bien entretenu, et dans l'autre, c'était 5 secondes, et puis on recommence, etc. Alors, donc je vais vous démontrer essayer de vous expliquer un petit peu comment le son est généré dans un instrument pareil. Et vous allez voir qu'en fait, ça va nous servir à comprendre ce qui se passe dans une céphéide. Alors, en fait, dès la fin du 18e, Donc Bernoulli, Euler, Lagrange, donc ce sont des physiciens bien connus, se sont intéressés aux propriétés des ondes acoustiques dans un tube. Et en 1920, donc un Américain, Webster, a essayé d'étudier un petit peu l'équation, pas d'un didgeridoo, mais plutôt d'un tube d'orgue ou d'un tube en général. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la figure, vous avez l'air qui vient des poumons, qui passe à travers les cordes vocales, les lèvres, et ensuite derrière vous avez soit une trompette, soit un didgeridoo. Donc vous avez une onde acoustique qui est en train de se propager ici. Quand elle se propage, en fait, il va y avoir une chute de densité au bout du tube, et on va pouvoir avoir un système d'ondes stationnaires qui va s'établir entre le bout du tube et les lèvres ici. C'est-à-dire on arrive à se retrouver dans un état où il y a un système d'ondes acoustiques entretenues entre les lèvres du musicien et le bout de l'instrument. Pour que le son continue, il faut quand même donc qu'il y ait toujours de l'air à souffler. Donc dans le cas de David, donc lui il maintenait la note, moi par contre, puisque moi je ne sais pas faire la respiration circulaire pour jouer ce genre de truc, donc moi c'était un son, ça s'arrête. L'autre chose, les deux instruments ont des sons quand même qui sont différents. Et ça dépend aussi de leur structure, à savoir comment, quel est le matériau dans lequel c'est réalisé, quelles sont les dimensions du tube, etc. Donc c'est pour ça que deux instruments comme ça ne feront pas le même bruit. Eh bien, les étoiles, c'est à peu près la même chose, en fait. C'est-à-dire les propriétés dynamiques d'une sphère gazeuse autogravitante sont en fait décrites par une même équation. Donc là, vous avez les parallèles entre une trompette ou un didgeridoo et une étoile. Donc ça, c'est valable en fait pour n'importe quelle étoile. Dans un cas, vous avez les lèvres du musicien et derrière un tube d'une certaine forme, d'une certaine matière. Et dans ce tube, on essaye d'établir un système d'ondes stationnaires qui fait le son que vous entendez. Dans une étoile, c'est à peu près la même chose, mais ça se passe en fait donc dans l'enveloppe de l'étoile et vous avez les zones d'ionisation partielle de l'hydrogène et de l'hélium qui jouent le rôle du musicien, qui sont en train de souffler, on peut dire. Et vous avez le gradient de densité dans l'enveloppe qui joue le même rôle que la forme et la matière du tube. Et en fait, pour décrire à une dimension ce qui se passe, pourquoi une étoile va pulser, ce sont les mêmes équations que si on voulait décrire ce qui se passe dans un didgeridoo. Donc dans les deux cas, on a un système d'ondes acoustiques stationnaires. Mais bon, toutes les étoiles ne sont pas en train de pulser. C'est-à-dire il faut quand même certaines conditions pour que la pulsation se produise. De plus, une trompette, quand elle est bien conçue, elle a des rapports de fréquence qui sont faits pour que ça plaise à l'oreille humaine. Les étoiles, en fait, elles s'en fichent un petit peu, et vous vous en rendrez compte un peu plus tard. C'est-à-dire, les différentes notes que vous pourriez jouer si vous étiez une étoile sont assez désagréables à l'oreille. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors, une autre petite chose. Donc là, on revient sur ces étoiles variables, les céphéides. Ces étoiles ont une propriété assez particulière, c'est leur période de pulsation est corrélée à leur luminosité. Donc ça vient de la loi qui est écrite ici. C'est-à-dire pour chaque étoile qui se trouve dans la bande d'instabilité, on peut trouver une plage de période et ça définit une bande que vous voyez ici. Donc là, vous avez la période en fonction de la luminosité ou la magnitude de l'étoile. Là, ce sont des étoiles, les petites croix, ce sont des étoiles que l'on appelle des céphéides classiques. Et à côté, vous avez en point noir des céphéides que l'on appelle des céphéides première overtone. Là, on se retrouve exactement comme dans le cas d'un instrument de musique, c'est-à-dire les céphéides classiques, dont vous voyez la courbe de lumière ici, sont des étoiles qui jouent sur la fréquence fondamentale, c'est-à-dire la première fréquence. Les céphéides première overtone sont des objets qui, elles, pulsent non pas sur la fréquence fondamentale, mais sur la première harmonique. Et ça donne deux relations période-luminosité qui sont parallèles. Et ici, là, sur le côté, je vais vous montrer un petit peu à partir d'un modèle, en fait, comment les différentes couches d'une enveloppe, enfin, qu'est-ce qui se passe lors de la pulsation d'une étoile. Donc ça, c'est réalisé, en fait, à partir de modèles hydrodynamiques d'une céphéide. Donc vous voyez différentes couches qui sont en train de tomber les unes sur les autres et de remonter. Et vous pouvez remarquer que le cœur de l'étoile, lui, ne bouge pas du tout, est complètement insensible à la pulsation, alors que les couches externes, plus on est vers l'extérieur, en fait, plus le phénomène est violent. Donc là, je reviens encore à la notion de trompette pour les céphéides. Donc, vous avez vu la relation période-luminosité avec deux types de céphéides, donc on peut dire deux notes. Et je vous avais mentionné tout à l'heure les rapports de fréquence de ce genre d'instrument. Mais maintenant, on va les écouter. Donc, on va commencer par un tube, c'est-à-dire je crois que c'est un tube d'orgue, avec les différentes notes qui sont jouées. Ah. Flûte. Il faut rebrancher la machine. Comme il y a une petite interférence entre ce PC et les haut-parleurs ici, on ne le garde pas tout le temps. Voilà. Donc là, vous venez d'entendre en fait quelque chose qu'un instrument de musique normal. Maintenant, on va passer à une trompette qui a les mêmes propriétés acoustiques qu'une céphéide. Cette trompette, vous la voyez dessinée au-dessus. Ah non. Bon, elle est marquée là, ouais. La partie haute. Ici. Donc un tube très très long, avec un petit renflement ici. Et ensuite, donc, la cloche au bout qui est très ouverte. Ce petit renflement-là, c'est assez particulier. C'est à cause des propriétés de l'enveloppe de l'étoile. C'est lié, en fait, aux zones d'ionisation partielle de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, si on veut reproduire les mêmes sons, on est obligé de créer une trompette avec ce truc, cette forme un peu particulière. Donc, maintenant, on va écouter une céphéide. Les musiciens trouveront sans doute que ce n'est pas très harmonieux. Mais ça a quand même une grosse analogie avec un instrument de musique. Bon. Donc là, pour finir ce petit tour d'horizon un peu théorique, je vais maintenant vous montrer une céphéide en train de pulser. Bon, voilà, il va y avoir en plus un petit fond musical, mais celui-là n'est tout à fait normal. Donc, ce que vous voyez au-dessus, vous voyez une étoile en fait dont le rayon est en train de varier et la couleur est en train de varier aussi. Donc quand elle est plus jaune, ça veut dire qu'elle est plus chaude, quand elle est plus rouge, ça veut dire qu'elle est plus froide. Et donc vous voyez les variations de couleur, donc qui sont des variations de température, et en même temps les variations de rayon qui se passent. Et puis devant, vous avez le modèle de céphéide trompette qui est en train de tourner. Alors, pour fixer un petit peu les idées, je vais faire un petit résumé. Donc c'est important de garder en tête que c'est l'évolution stellaire qui va construire la trompette. C'est-à-dire les propriétés acoustiques des étoiles sont dessinées par l'évolution stellaire. C'est une zone particulière qui est dans les parties extérieures de l'étoile, qui sont les zones d'ionisation partielle de l'hydrogène et de l'hélium, qui servent de musiciens. Mais bon, dans la plupart des cas, il ne se passe rien. Et si la céphéide, c'est-à-dire comme ceci, quand il est posé sur la table, il ne fait pas de bruit, sauf si je suis en train de souffler dedans. Si la céphéide est dans la bande d'instabilité, à ce moment-là, on a le mécanisme pour va dire qu'on va avoir les sons qui vont sortir. On peut dire que le musicien est prêt et la céphéide va pulser. Ceci est valable aussi pour les W Virginis et les RA Lyrae et en fait toutes les étoiles qui ont ce même type de propriétés. Alors aussi, il existe une relation entre la période et la luminosité. Donc ça veut dire que si vous connaissez la luminosité de céphéide voisine, donc vous connaissez aussi la distance, ça veut dire qu'on sait qu'une céphéide qui a, mettons, 3 jours de période, va être 500 fois plus lumineuse que le Soleil. Donc si on observe une céphéide de 3 jours de période très loin, eh bien, la différence de luminosité sera due à la distance, et donc on peut calculer la distance. Voilà, donc ça paraît très simple, et en fait, on peut dire que c'est là que les problèmes commencent vraiment. Donc là, on va faire un saut dans le passé, on remonte au 1780. En 1780, il y avait un jeune homme qui s'appelait Goodreich, qui était astronome amateur. Alors, c'est vers l'âge de 18 ans qu'il a commencé à observer le ciel. C'était une grosse mode à l'époque, quand on était issu de bonne famille, de passer des nuits à essayer de trouver des étoiles variables. Et pour vous donner une idée, c'était vraiment un observateur assidu. C'est-à-dire en 1785, en Angleterre, dans la ville de York, en 10 mois, il a réussi à faire 100 observations d'une étoile qui s'appelle Delta Cephei, qui était en fait la première céphéide à être découverte. Donc cette première céphéide, que vous voyez d'ailleurs pulser sur le côté, ici, qui se trouve en fait à cet endroit-là de la constellation de Céphée, était la première céphéide à être découverte. Donc Goodreich a aussi découvert la seconde céphéide qui s'appelle Eta Aquilae. Et le problème, c'est ce jeune homme a observé un peu trop. Et en fait, il est mort d'une maladie liée à trop d'exposition à l'air de la nuit. C'était une dizaine de jours après une campagne d'observation. Bon, et puis son copain de travail, qui s'appelait Pigott, a continué le travail et a surtout fait attention à bien perpétuer sa mémoire. Donc, il a détecté pas mal d'étoiles variables, notamment aussi des binaires comme Algol, donc Delta Cephei et Aquilae, les deux premières céphéides, et puis un objet que j'aime bien, qui s'appelle Erskuti, qui est une étoile absolument monstrueuse, dont on parlera un peu plus tard, qui fait partie de la famille des W Virginis. Après ses premières découvertes de céphéides, ben, il ne s'est pas passé des choses absolument faramineuses. Et en fait, le premier grand pas en avant a été réalisé en 1912 par Henrietta Leavitt à l'université d'Harvard. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, bon, on n'avait pas d'ordinateur, et donc la mode consistait, par exemple pour un directeur d'observatoire, à avoir une équipe d'une vingtaine de femmes qui étaient là pour faire le boulot, pour faire les calculs. Et donc, elle faisait partie de cette armada de calculatrices. Et le problème, c'est qu'en plus, elle utilisait son cerveau, ce qui n'était pas tout à fait... Normalement, elle n'était pas censée le faire. Donc, elle a mesuré 1777 étoiles variables dans les nuages de Magellan. Les nuages de Magellan sont deux petites galaxies qu'on voit dans l'hémisphère sud. On les voit à l'œil nu. Ce sont des galaxies qui sont situées à l'ordre de 150 000 années-lumière de la Terre, qui sont des galaxies naines. L'avantage, c'est que ce sont deux des galaxies les plus proches de nous, et donc on peut résoudre les étoiles individuellement dedans et voir les pouvoir travailler directement sur des étoiles des nuages de Magellan. Donc Henrietta Leavitt, elle a observé donc ces étoiles variables et elle a trouvé un groupe d'objets dont la forme de la courbe de lumière, c'est-à-dire la variation de la luminosité au cours du temps. Donc ça, c'est une variation au cours d'une période, était semblable à Delta Cephei. Et puis, en traçant la période en fonction de la luminosité, paf, elle s'est rendue compte qu'il y avait une bonne corrélation entre le logarithme de la période et la luminosité. Et donc, elle a écrit un article dans lequel elle dit « Ah ben voilà, donc j'ai trouvé des objets qui sont sans doute des céphéides. » Comme elles sont dans cette petite galaxie, elles sont toutes à la même distance, c'est pour ça qu'on voit cette relation période-luminosité. Et donc, on devrait pouvoir utiliser la relation période-luminosité pour mesurer des distances. Là-dessus, son chef, Pickering, lui a suggéré de retourner à ses chères études et de continuer à dépouiller des données. Bon, elle a quand même sorti un autre petit article derrière, et puis ensuite elle s'est éteinte quelques années plus tard. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Henrietta Leavitt donc, a montré qu'il existait une relation entre période et luminosité, avant on ne le savait pas, et elle a aussi mentionné le fait qu'on pouvait les utiliser pour mesurer des distances. Bon, là-dessus, deux messieurs, Hertzsprung, celui du diagramme Hertzsprung-Russell, pour ceux qui connaissent, et Chapelet, ont utilisé les résultats d'Henrietta Leavitt, et surtout, ils se sont dit, bon, il y a des céphéides dans le voisinage solaire dont on peut essayer de mesurer la distance par des parallaxes. C'est-à-dire qu'on peut arriver à trouver la distance de céphéides connues. Et avec ça, puisqu'on connaît ces distances de céphéides voisines, on peut calculer la distance du petit nuage de Magellan. Donc, c'est ce qu'Hertzsprung a fait en 1913, et il trouve 30 000 années-lumière pour le petit nuage de Magellan. Alors qu'en fait, bon, alors aujourd'hui, on sait que c'est 150 000 pour le grand nuage et 170 000 pour le petit. Puis Chapelet prend les céphéides des amas globulaires et en fait, il trouve la même chose. Parce que bon, il y a un type d'objet qu'on observe aussi beaucoup qui sont des amas globulaires, sont des amas d'étoiles dans lesquels il y a des étoiles variables. Ce sont des amas, donc des groupes, mettons, de plusieurs milliers d'étoiles, et dedans, ce sont des étoiles très vieilles, pour la plupart. Donc vous allez y avoir des RR Lyrae, donc des pulsantes très vieilles à très courte période, et des W Virginis, des choses qui ressemblent aux céphéides, qui sont très vieilles, et qui pulsent avec les mêmes périodes que les céphéides, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés, pas la même luminosité, etc. Donc, en fait, Chapelet a voulu, pour essayer de vérifier ses résultats, les résultats qu'il avait obtenus avec les céphéides voisines et les céphéides du petit nuage de Magellan, il a voulu vérifier que ça marchait bien avec les amas globulaires. Et là, ça marchait impeccable. Donc là, il est évidemment très, très content. Mais le problème, c'est que ces céphéides des amas globulaires sont en fait des W Virginis qui sont beaucoup moins lumineuses que les autres. Dans le même temps, il n'avait pas fait de correction... je vais parler des erreurs qu'il a faites. Il a fait plusieurs erreurs qui sous-estimait la luminosité des céphéides. Donc il sous-estimait la luminosité des céphéides et il se plantait dans sa vérification. On peut dire que ce n'était pas de chance, c'était quand même vicieux. Mais il y avait une erreur à la base, et il y a une erreur dans la vérification. Et donc là, on est parti pour 40 ans à rester dans cette erreur. Alors, quel était le problème principal de l'étude qui était faite donc, au début, dans les années 1915-1920 ? C'est le problème de l'extinction. Donc vous avez quelque chose qui émet de la lumière. Un astronome qui est en train de regarder. Si entre l'astronome et votre source de lumière, vous avez de la poussière interstellaire, elle va absorber plus de lumière bleue que de lumière rouge. Elle va absorber de la lumière, et en plus, elle va modifier la couleur de l'objet que vous êtes en train d'observer. Donc autrefois, jusque dans les années 30, on ne connaissait pas ces problèmes dits d'extinction, c'est-à-dire d'absorption de la lumière par ce qu'il va y avoir sur la ligne de visée de ce que vous êtes en train de regarder. Donc en résumé, à cause de la poussière, un objet que vous regardez va paraître plus rouge et moins lumineux. Et donc, Hertzsprung n'avait pas fait de correction liée à l'extinction. Alors comment on fait pour mesurer des distances. On va se douter, par exemple, on va décider qu'on veut regarder des choses qui se passent très très loin. On va donc enchaîner une succession de méthodes pour pouvoir aller à des très grandes distances. Par exemple, les céphéides, on les a ici, c'est-à-dire dans notre galaxie et dans les petits nuages de Magellan. Bon. Donc on calibre on prend des céphéides ici dont on connaît la distance, on essaye de mesurer le petit nuage de Magellan en utilisant ces céphéides. Et dans le petit nuage de Magellan, on va trouver d'autres méthodes. C'est par exemple, on va dire, les étoiles les plus brillantes d'une galaxie sont toujours les mêmes. C'est quelque chose de standard. Donc ça veut dire que si on regarde une autre galaxie très lointaine, on pourra dire les étoiles les plus brillantes de cette galaxie très lointaine ont la même luminosité que celle du petit nuage de Magellan. Et ainsi, en fait, en empilant différentes méthodes pour mesurer les distances, on peut aller le plus loin possible, et on est seulement limité par les différents instruments, ce qu'on appelle l'échelle des distances. En 1925, Hubble, donc ça c'est un nom connu, a utilisé, ça doit être le télescope de 2,50 m du mont Wilson, donc peu de temps après son ouverture, et il essayait d'observer la nébuleuse d'Andromède. À cette époque, il y avait un débat à savoir si les nébuleuses spirales qu'on voyait dans le ciel, donc c'est ce qu'on sait maintenant aujourd'hui être des galaxies, étaient des choses comme la Voie lactée et qui étaient en dehors de la Voie lactée, ou alors si c'était seulement des objets très très proches dans notre galaxie et qui étaient des spirales d'étoiles. Donc en 1925, Hubble a observé la galaxie d'Andromède pour essayer de donner une réponse à cette question. Et il a trouvé des céphéides. Donc sur la figure que vous voyez là, vous voyez le bulbe d'Andromède. Là, en fait, ça, c'est la partie spirale. Et ici, là, il y a la première céphéide avec la note manuscrite d'Hubble montrant qu'il était content, il avait trouvé une étoile variable, var. Donc il prend la relation période-luminosité calibrée par Hertzsprung-Chaplet. Donc, et avec ça, il prend cette céphéide dont il connaît la période et il peut calculer la luminosité et donc la distance. D'un seul coup, il venait de trouver une galaxie à 900 000 années-lumière de distance de la Terre. À cette époque-là, la distance était de 900 000 années-lumière. Donc ça permettait de montrer que les nébuleuses spirales, comme on les appelait à l'époque, sont des galaxies à part entière, ce sont des univers-îles, c'était l'expression de l'époque quand on les avait trouvées. Donc premier succès, on peut dire vraiment avec les céphéides, ça a été de montrer que ces nébuleuses spirales sont des galaxies à part entière très éloignées. Ensuite, donc fort de ce succès, Hubble a essayé d'aller le plus loin possible en utilisant les méthodes que je vous avais mentionnées pour mesurer des distances. Donc, il va jusqu'à Andromède en utilisant la relation période-luminosité des céphéides, et puis après, il essaye différentes méthodes, comme par exemple considérer que les étoiles les plus brillantes d'une galaxie ont toujours la même luminosité, donc ça lui permet d'aller beaucoup plus loin qu'Andromède, jusque dans Virgo. Et ensuite, il essaye de prendre la luminosité, je crois que c'est la luminosité totale des galaxies, comme étant quelque chose de constant, et pour essayer d'aller encore plus loin. Donc il essaye comme ça de mesurer les distances avec les moyens de l'époque. Bon, c'était déjà complètement héroïque, hein, faut quand même pas négliger la chose, pour essayer d'aller mesurer des distances le plus loin possible. Et à ce moment-là, en mesurant la vitesse radiale de ces objets, en faisant de la spectroscopie, il se rend compte qu'il y a une corrélation entre la vitesse à laquelle les objets s'éloignent de nous et la distance. Mais ça marche à très très grande distance. Donc il a publié un article dans lequel il présentait cette relation entre la vitesse et la distance dans les nébuleuses extragalactiques. À l'époque, il appelait cette constante K, et maintenant, on l'appelle la constante de Hubble, H0. Alors, c'est ça qui vous donne, en fait, ce qu'on appelle la vitesse d'expansion de l'univers. Mais ça, je vais revenir un petit peu là-dessus après. À l'époque, il mesurait une valeur de constante de Hubble de 560 km par seconde par mégaparsec. Alors, un mégaparsec, c'est 3,26 millions d'années-lumière. Donc, ça donne la vitesse à laquelle ça gonfle. Donc, ça veut dire que compte tenu de cette vitesse, l'univers est âgé au plus de 2 milliards d'années. Bon, à l'époque, dans son article, il donnait différentes interprétations. Il n'était pas sûr exactement de ce que c'était. Donc, il disait, par exemple, que la lumière pouvait peut-être perdre de l'énergie au cours du trajet. Donc, c'était une théorie dite, de photons fatigués. Ou alors, interpréter ça en termes de décalage Doppler comme signature de l'expansion de l'univers. Bon, je vous parle de l'expansion de l'univers, mais on va quand même en parler un petit peu. Donc, ce concept, en fait, est apparu en 1927, avec les deux travaux simultanés par l'abbé Lemaître, donc qui était un jésuite belge, et le mathématicien russe Alexandre Friedman. Donc eux, en fait, à partir des équations de la relativité générale, ont montré que l'univers était en expansion. Et d'ailleurs, Lemaître parlait en fait d'atomes primitifs, puisqu'on pouvait parler le concept de Big Bang apparaissait à ce moment-là. Donc pour vous donner une petite illustration de ce qu'est l'expansion de l'univers, Vous avez une sphère, vous avez trois sphères, mais en fait c'est la même sphère à différentes époques d'expansion. Donc vous avez des galaxies qui sont positionnées dessus, et vous voyez qu'au cours du temps, la distance de deux galaxies est en train de devenir de plus en plus importante, alors que la taille des objets, en fait, eux, ne bougent pas. Donc c'est ça l'expansion de l'univers, et c'est ça que les gens essayent de mesurer depuis les travaux de Hubble. Alors, puisque l'unité de mesure, c'est le kilomètre par seconde par 3,3 millions d'années-lumière, ça veut dire que c'est quelque chose de très très fin. On ne peut pas mesurer ça dans la cour. Il faut vraiment aller à des très très grandes distances. Donc c'est pour ça que la tâche est formidablement difficile. C'est parce qu'il faut arriver à mesurer correctement les choses d'ici jusqu'à des distances qui vont être, mettons, de 300 millions d'années-lumière. Je revenais encore un petit peu sur le transparent précédent. D'après Hubble, il donnait 10% d'erreur sur la mesure qu'il avait effectuée. C'est-à-dire, son travail, il disait, je l'ai mesuré, allez, c'est entre 500 et 600 km par seconde par mégaparsec. Et aussi, donc gardez ça en tête. Et ici, là, vous n'avez peut-être pas fait attention, qui est en train d'observer ? C'est Einstein. Donc vous avez Einstein en train d'observer, parce que même les théoriciens sont capables d'aller derrière un télescope. Et ici, Hubble. Et là, c'est Jeans. Ça, c'est... Alors, donc je reviens aux céphéides, parce que c'est vraiment le propos d'aujourd'hui. Donc avec les céphéides, on a eu 40 ans de confirmation. C'est-à-dire, pendant 40 ans, on est resté dans l'état de 1913. Donc comme je vous ai dit, c'était l'absence de correction d'extinction, donc le fait qu'ils ne prenaient pas en compte la présence de poussière dans notre galaxie, et le fait aussi qu'ils n'avaient pas beaucoup de statistiques à l'époque, qu'ils ont eu cette première erreur, et puis ils n'ont eu pas de chance, puisque leur vérification était en fait un coup du sort. Donc là, on peut juste passer peut-être un peu en revue là, ce qui s'est passé. Donc après les premiers travaux de 1913-1918, il y a eu des confirmations, d'abord par Chapelet, donc il confirmait son propre travail. Il lui disait, oui, je suis sûr de ce qui se passe, tout est sous contrôle. Parallèlement à ça, là je le mentionne un petit peu parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit avant. Autrefois, on pensait que les céphéides étaient des étoiles, n'étaient pas des objets qui pulsaient, mais étaient des binaires, c'est-à-dire une étoile avec quelque chose qui tourne autour, avec des formes de nuages un peu particuliers. Et puis les gens, jusque dans les années 40, ont essayé de développer des théories de plus en plus sophistiquées pour essayer d'avoir des mécanismes de binaires qui allaient générer les variations de lumière qu'on observait. Mais c'est en 1926 que Eddington a développé la théorie de pulsation stellaire. Bon, puis il y a eu, on peut dire, des confirmations. En 1930, quelqu'un a enfin pensé à la notion d'absorption interstellaire. Et si on avait appliqué ces travaux directement aux travaux d'Hertzsprung et Chapelet, donc ça faisait une correction qui corrigeait la plupart du problème qu'il y avait. Mais bon, Trumpler n'a pas osé le faire, et puis en fait, personne n'a essayé. En 1939, il y a eu une confirmation éclatante qui était basée entièrement sur un argument circulaire, c'est-à-dire on prend comme hypothèse de départ que le résultat est juste, et hop, on fait un travail, on vérifie, et on retombe sur l'hypothèse de départ. Donc c'est une grande spécialité quand on travaille sur la constante de Hubble. En 1944, Sid Meiner, je crois qu'il a été directeur de l'Institut, enfin c'était un astronome d'ici, alors qu'il était en prison, a travaillé. C'était en 1943, je crois, qu'il travaillait là-dessus. Puis ça a été publié en 1944. Et il a montré que le point zéro de la relation période-luminosité était faux. C'est-à-dire, en fait, il a mis en évidence l'erreur qu'il y avait depuis 1913. Mais bon, il ne s'est passé rien du tout, parce que je crois que l'article était écrit en français, entre autres. Et c'est en 1953 que là, tout le monde se réveille. Et il y a trois études simultanées qui montrent que les travaux de 1913 étaient faux. Donc là, c'était des travaux faits en utilisant le télescope de 5,90 m du Mont Palomar, parce qu'ils avaient essayé de trouver des RR Lyrae dans la galaxie d'Andromède. Ils ne les ont pas trouvés, donc ça veut dire que s'ils ne les ont pas trouvés, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'échelle de distance. Sandage, quelqu'un dont vous allez entendre beaucoup parler par la suite, qui était en train de finir sa thèse, analyser les données d'un amas globulaire, et il a conclu qu'il y avait un problème là-dessus. Et puis aussi, des Sud-Africains ont fait un travail similaire. Donc d'un seul coup, avec cette correction, l'univers devenait deux fois plus grand et deux fois plus vieux. Donc on passait d'un univers qui était âgé de 2 milliards d'années, ce qui posait un problème avec les premières mesures de datation d'âge des roches, parce que ça posait quand même un problème de penser qu'on avait un univers âgé de 2 milliards d'années et que parallèlement à ça, la Terre avait 4 milliards d'années. D'ailleurs, c'était utilisé par certains scientifiques pour dire que tout ça, c'était n'importe quoi, l'expansion de l'univers, c'était n'importe quoi, les travaux sur l'expansion de l'univers étaient complètement faux, et qu'en fait, donc, on vivait dans un univers âgé de 4 milliards d'années, et statique, sans expansion. Alors après, ce qui est très intéressant, c'est qu'après ces travaux sur la relation période-luminosité, alors que tout le monde confirmait les travaux avant, d'un seul coup, tout le monde a confirmé ce nouveau résultat. Bon, Sandage a continué à travailler, et il a trouvé plein d'autres problèmes, en fait, liés aux travaux qui avaient été réalisés par Hubble, pour voir aussi qu'il utilisait des moyens d'observation beaucoup plus puissants. Et finalement, il calcule que la constante de Hubble doit être de 75 km par seconde par mégaparsec. Donc d'un seul coup, on passe de 560 à 75. Et toujours, j'insiste, hein, c'était avec une erreur de 10%, c'est-à-dire... Donc là aussi, on est avec une erreur de 10%, comme d'habitude. La bagarre. Un Français qui s'appelle De Vaucouleur, qui était opposé à Sandage, Alan Sandage, et Gustave Tamman, donc un Américain et un Suisse. Alors, ces groupes avaient des méthodes qui étaient radicalement différentes. Donc la méthode Sandage-Tamman, c'était on prend ce que l'on pense être les meilleurs indicateurs de distance, seuls, et on se dit comme ça c'est plus sûr, on ne va pas rajouter d'erreurs, et boum, il trouve H0 de 50 km par seconde par mégaparsec. Toujours avec une erreur toute petite. Parallèlement à ça, De Vaucouleur, et en fait beaucoup de gens ont fait comme lui, essayaient d'utiliser conjointement beaucoup de méthodes différentes. Et eux trouvaient donc de l'ordre de 100 km par seconde par mégaparsec. Bon, il faut garder en tête que les valeurs hautes de H0, en fait, ça pose un problème pour l'âge de l'univers. C'est-à-dire avec un H0 de 100, avec les modèles classiques, on va dire que ça fait un univers qui doit être entre 10, aux alentours de 10 milliards d'années, ce qui est quand même assez jeune. Bon, il faut garder en tête, par rapport à tous ces travaux, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y avait ce que l'on peut appeler des réglages à la main. C'est-à-dire, il y avait pas mal de choses pour lesquelles on affirmait de manière assez péremptoire un résultat, mais en fait, c'était assez bidouillé au tournevis. Et pour ce qui concerne les céphéides, alors là, les céphéides, ça allait très bien, elles ne faisaient pas l'objet de controverses. Ils se tapaient dessus pour d'autres raisons. Comme on aime les petites phrases, tout le monde est à la recherche de petites phrases dans les journaux, donc là, je vous en ai mis quelques-unes. Donc, exemple, De Vaucouleur. Alors, tout ça sont dans des articles publiés ou dans des comptes rendus de conférences où les discussions ont été retranscrites. Donc, ce sont des citations que vous pouvez trouver dans des bouquins. « Vous misez tout sur le même cheval, je répartis les risques. » Donc la réponse de Sandage et Tamman, je ne peux pas croire que H0 soit supérieur à 70. Je ne peux pas croire que H0 soit inférieur à 70. La mesure de H0 est une mesure de votre naïveté. Celle-là, je l'ai entendue, parce que j'ai rencontré Tamman quand j'étais tout jeune étudiant en thèse. Et c'est une des premières choses qu'il m'a dit à table. Et De Vaucouleur, si seulement Sandage et Tamman arrêtaient de publier, la controverse serait terminée. Ou alors ça, celle-là, je l'aime bien, c'est Sandage. Seul un grand maître sait par intuition quels sont les indices utiles. En d'autres termes, son intuition lui permet de juger ce qui est réel durant une partie, ce qui va mener ou ne pas mener à une contradiction et quels sont les aspects à ignorer. Donc ils ont commencé, là on peut dire, ça a commencé vraiment à chauffer dans les années 70. Donc il a été proposé, début des années 80, un moyen de résoudre la controverse. Donc c'est un peu une approche à la Barry Lyndon. Donc vous avez à gauche, on peut dire Gustave Tamman, à droite, Gérard De Vaucouleur, et il est écrit en anglais au milieu, nous aurons bientôt une valeur pour la constante de Hubble. Bon, donc ça a chauffé, ils se sont étripés. Bon, il y a des Français qui ont mis leur grain de sel, ont montré qu'il y avait un certain nombre d'erreurs, notamment des gens de l'Observatoire de Paris, dont les noms vous connaissez peut-être, parce qu'ils ont écrit aussi des livres d'astro, donc il y a de grand public, il y a Bottinelli, Guggenheim, qui ont travaillé là-dessus et montré un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites, notamment par les gens qui mesuraient les grandes distances. Enfin, bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Seulement si vous voulez poser des questions après. Alors, la prochaine grande étape, parce que là, ça a vraiment été un grand pas en avant, c'était avec le télescope spatial Hubble. Donc, d'abord, je cite Riccardo Giaconi, donc, qui était directeur du télescope spatial, directeur de l'ESO, et maintenant prix Nobel de physique. Il a dit « HST mesurera H0 à 10% en 24 heures d'observation ». Je pourrais vous donner la référence si vous voulez. Toujours là, je ne sais pas, il avait peut-être bu. Bon, le problème, c'est que quand le télescope spatial a été lancé, il était myope. Et donc, on ne pouvait pas faire grand-chose pour essayer de trouver des céphéides dans des galaxies très lointaines. Donc, c'est seulement après la mission de réparation, quand ils ont mis COSTAR, donc on peut dire les lunettes au télescope spatial, que là, ça a commencé à nouveau à chauffer. Donc, en 1994, on avait deux valeurs, H0,50 ou H0,80. Et les chefs de guerre étaient donc toujours Sandage, dont vous avez une photo en bas, et en face, Wendy Friedman, une Américaine. Donc Friedman a rassemblé autour d'elle une équipe d'une trentaine de personnes, et ils ont fait ce qu'on appelle le key program sur les échelles de distance avec le télescope spatial. Et Sandage, lui, a décidé d'utiliser le télescope spatial pour mesurer la distance de galaxies dans lesquelles des supernovas avaient explosé, parce que ça, c'est un indicateur de distance très performant pour aller très très loin. Donc, mais dans les deux cas, ils avaient décidé, pour calibrer leurs indicateurs de distance préférés, de mesurer des céphéides le plus loin possible avec le télescope spatial. Et ils prenaient exactement les mêmes hypothèses. C'est-à-dire, ils prenaient pour les calibrations le grand nuage de Magellan, les mêmes étoiles du grand nuage de Magellan, avec la même méthode. Donc ils se sont dit, là au moins, on va essayer pour une fois de faire quelque chose où on fait strictement pareil. Donc là, je reviens encore un petit peu sur la méthode pour mesurer les distances, histoire que ça rentre bien dans la tête. Je vous rappelle donc qu'on observe des céphéides dans une galaxie lointaine, très lointaine. On a des céphéides dans les grands nuages de Magellan. Donc là, vous voyez sur la figure une relation période-luminosité. Les croix sont votre galaxie cible. Les losanges sont la galaxie, c'est le grand nuage de Magellan. Donc ce sont les objets qui vous servent de calibration de distance. Et la petite flèche rouge, là, elle est due à la distance et à l'extinction par la poussière. Donc ils font l'hypothèse que les céphéides des deux galaxies sont pareils, c'est-à-dire qu'elles suivent la même relation période-luminosité, et que les seules différences, ça va être distance et extinction. Et ils vont utiliser la couleur des céphéides pour déterminer l'extinction et calculer la distance. Bon, tout ça, ça paraît facile. Et là, donc là-dessus, il y a quand même une hypothèse forte, c'est que la relation période-luminosité est universelle. Et comme je l'écris en bas, elle est universelle pour un cosmologue. Pas forcément pour ceux qui font de la physique stellaire. Donc voilà un petit résumé de ce qu'ils prévoyaient pour mesurer les distances. Donc c'est un diagramme où vous avez la distance marquée en bas, donc en mégaparsec, 20 mégaparsec, 100 mégaparsec. Donc ils essayent de calibrer. Donc ces figures résument qu'ils essayent de calibrer proprement tout d'abord la distance du grand nuage de Magellan, et ensuite ils utilisent la relation période-luminosité pour aller le plus loin possible, et par exemple dans l'amas Virgo, ou dans l'amas Fornax, ou dans l'EO1, et là, ils vont utiliser d'autres méthodes pour mesurer les distances qui vont leur permettre d'aller très très loin. Donc là, les différentes méthodes sont résumées. Est-ce que je vais en citer quelques-unes? Je vais juste en citer une parce qu'elle est quand même bien. C'est un type d'étoile qu'on appelle les supernovas de type 1A. Donc c'est un système binaire. Vous avez une naine blanche qui est en train de récupérer de la matière de son compagnon. Et quand elle a atteint une certaine masse, elle va exploser. Donc cette masse, c'est 1,4 fois la masse du Soleil, ce qu'on appelle la masse de chambre à Sécart. Et ça produit un phénomène extrêmement lumineux. Et ensuite, la luminosité monte très violemment, et après, ça descend pendant quelques temps. Donc l'idée, c'est puisque ce sont des phénomènes extrêmement lumineux, on peut les voir très loin. Et on considère que quasiment toutes les supernovas de ce type ont la même luminosité. Donc, on trouve une galaxie ou une supernova explosée pour laquelle on a la courbe de lumière, la variation de la lumière au cours du temps. Donc on se dit, bon, avec cette supernova, on va pouvoir aller très très loin. Donc on va calibrer proprement la distance de cette supernova. Et ça, on le fait avec les céphéides. Alors, donc, par exemple, l'équipe utilisant le télescope spatial a observé la galaxie M100 dans Virgo. Donc c'est une superbe spirale que vous voyez sur le côté. Et au bout de la flèche, là, vous avez un zoom sur un petit champ. Alors, où est la céphéide? Il y a une céphéide là-dedans. Donc vous voyez, il y a plein de points qui vont dans tous les sens, qui varient. Donc ça, c'est dû à la présence de rayons cosmiques, des petits problèmes. Mais il y a un endroit où vous voyez un point lumineux qui varie beaucoup et qui est toujours là. Regardez. Donc en fait, ici, vous avez une céphéide. Donc le jeu avec ce genre de données, c'est de chercher des céphéides comme ça. Mais évidemment, on ne le fait pas à l'œil. Hein. On utilise des programmes informatiques et on réduit des données. Alors, en utilisant ces céphéides très lointaines, on pouvait penser que, puisqu'ils utilisent vraiment les mêmes méthodes pour mesurer les distances, on pouvait penser que ça allait peut-être simplifier un peu les choses. Eh bien non, parce que bon, les premiers résultats de Friedman dans Virgo donnent un H0 de 80, et Sandage, dans deux galaxies, bah, fidèle à son habitude, c'est H0 égale 55. Donc c'est là qu'on a fait une petite contribution au problème. Donc avec Dimitar Saslov, qui est un prof à Harvard maintenant, on a pris des données venant de l'expérience EROS. Alors EROS, c'est une équipe d'astronomes et de physiciens des particules dont le but était de chercher la matière noire dans le halo de notre galaxie par effet de lentille gravitationnelle. Mais accessoirement, pour faire ça, il fallait collecter beaucoup d'informations sur des étoiles situées dans les grands et dans le petit nuage de Magellan. Essayer de récupérer, donc, de surveiller, mettons, plusieurs centaines de milliers d'étoiles régulièrement dans chacune des deux galaxies. Et à partir du moment où on surveille longtemps deux petites galaxies, on peut voir si par hasard il n'y a pas des céphéides. Et oui, en fait, on a trouvé 550 céphéides dans ces deux nuages de Magellan, le grand et le petit. Alors, grand nuage de Magellan, c'est marqué LMC, là, ce que vous voyez sur le diagramme, et le petit, c'est SMC. Alors, il y a aussi un autre élément qui est intéressant, c'est quand on travaille sur ces galaxies, on peut considérer qu'elles ont, qu'elles n'ont pas de profondeur, donc que toutes les céphéides sont à la même distance. Et aussi, ces deux galaxies ont des contenus en métaux différents. Ça veut dire que leur composition chimique est différente parce qu'elles ont eu une histoire différente. Et donc, c'est un endroit parfait pour tester si est-ce que les céphéides sont vraiment un truc complètement universel, suivant la même relation période-luminosité. Et en fait, bon, en faisant des traitements statistiques, on arrive à montrer que les céphéides du petit nuage de Magellan, qui sont plus pauvres en métaux, sont plus bleus. Ça veut dire qu'elles ont une couleur différente. Donc, ça veut dire aussi, là, vous voyez les trois flèches, sont trois estimations de distance entre les deux nuages. La première flèche, c'est la distance apparente, c'est-à-dire vous ne faites pas de correction d'extinction, pas de correction de métallicité, rien du tout. La deuxième flèche, c'est vous appliquer la méthode utilisée par les équipes HST pour calculer la distance entre le grand et le petit nuage de Magellan. Et la troisième flèche, c'est la vraie distance entre les deux. Donc vous voyez, c'est différent. Donc en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que contrairement à ce que tout le monde pensait, la relation période-luminosité dépend de la composition chimique. En fait, les gens qui font de la physique stellaire s'en doutaient. Quand on faisait des modèles, on s'en doutait aussi. Mais pour les cosmologues qui mesurent H0, ben non, elles étaient à peu près toutes pareilles. Donc les céphéides plus pauvres en métaux sont plus bleues et un peu moins lumineuses. Donc en fait, le piège dans lequel sont tombés les gens qui utilisent la méthode du télescope spatial, c'est qu'ils considèrent cette différence de couleur comme du rougissement, c'est-à-dire comme étant dû à la poussière. Donc ils font une erreur sur les corrections liées à l'extinction. et donc il se plante sur la distance. Et comme l'effet est petit en couleur, mais il se transforme en quelque chose de violent sur la distance. Alors là, donc ça c'est une figure issue d'un papier, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas très compréhensible, mais je vais vous expliquer. Donc vous avez le grand nuage de Magellan. Ici, donc pour lequel on a sa distance, son contenu en métaux. La galaxie M100 de Virgo, c'est une spirale monstrueuse, donc une galaxie riche en métaux, encore pire que la nôtre. Et avec elle, on avait obtenu, Friedman avait obtenu H0 de 80. Quand on corrige pour les effets liés à cette métallicité, ça descend à aux alentours de 73. Les galaxies observées par l'équipe de Sandage sont des galaxies qui, elles, au contraire, sont très pauvres en métaux. Et elles sont très pauvres en métaux aussi par rapport au grand nuage de Magellan. Et donc, si on fait le terme de correction, à ce moment-là, il faut passer de 55 à 65. Donc, juste avec ça, en fait, on voit que bon, ça tourne aux alentours de 70, et pour une fois, les résultats sont dans les barres d'erreur. Mais le plus important, en fait, de tout ça, c'est quand même de servir un peu de dire, faites attention quand vous utilisez ces objets et calculez les termes correctifs corrects. Donc, métallicité et céphéide. Donc, l'influence, en fait, de la composition chimique sur la relation période-luminosité des céphéides. Avant 1996, il n'y avait pas d'effet de métallicité. La relation période-luminosité était universelle. Après 1996, il y a quand même trois équipes qui ont confirmé ce qu'on avait fait, ce qui fait toujours plaisir. Puis ensuite, il y a eu des controverses, donc c'est pas encore avec des arguments circulaires, mais c'est pas encore complètement résolu. Dans la période 1995-1996, en fait, il y avait très peu de galaxies qui avaient des céphéides lointaines de mesurer. Avec l'époque, on avait fait ce travail. Par contre, on peut dire maintenant, il y a de l'ordre d'une trentaine de galaxies avec toute une plage de métallicité. Et en plus, l'équipe du QI programme fait maintenant des corrections de métallicité. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, les résultats finaux de l'équipe de Friedman sont à H0 de 70, donné à 10%. Et Sandage, lui, a remonté un petit peu, donc il est à 60, mais lui à 3%. Voilà. Bon, en 1997, certains d'entre vous ont peut-être remarqué, il y avait eu pas mal de bruit autour de résultats obtenus par le satellite Hipparcos, puisqu'Hipparcos mesurait des parallaxes et donc pouvait essayer de contraindre la luminosité des céphéides voisines, et donc ça aurait des implications sur l'ensemble de l'échelle de distance. Donc pour rentrer dans les détails, c'est après plutôt dans les questions, parce que sinon ça prendra un peu de temps. Donc à propos de céphéides, je crois que c'est important de donner quelques citations intéressantes. Donc en 1936, à propos de la relation période-luminosité, donc c'était à propos de la relation période-luminosité de 1913, Hubble avait dit « Les améliorations seront de peu d'importance ». En 1969, Fermi a dit « Les améliorations seront de peu d'importance ». En 1990, beaucoup de monde pensait « Les céphéides sont des chandelles standards idéales ». Donc après, il y a eu l'effet de métallicité. Maintenant, on dit tout est sous contrôle. Bon. Il ne faut pas douter. Hein. Donc ça, c'est une remarque en fait de Fermi à propos du comportement des astronomes, surtout pour la question de la constante de Hubble. Donc une étude sérieuse du comportement au troupeau des astronomes doit encore être écrite. Parfois, ce troupeau ressemble beaucoup à des antilopes, tête baissée, en formation serrée, avançant avec détermination dans une direction. Au signal du chef, on proteste, on râle un peu, on discute, et on continue en groupe serré dans une direction différente, suivant le chef avec détermination. Donc en guise de conclusion, pourquoi les céphéides ? Bon, ça, mon avis personnel, c'est qu'une danseuse est beaucoup plus intéressante qu'une fille immobile. En fait, avec une céphéide, on a plein d'informations sur la structure de l'étoile. Et ce sont des étoiles géniales pour tout un tas de trucs dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui parce que ça, je pense que ça aurait encore plus endormi l'auditoire, à savoir la théorie de pulsation stellaire, l'évolution stellaire, les opacités, l'équation d'état, bon, puis éventuellement mesurer des distances. Je crois que leur histoire est à méditer parce qu'on a eu des immenses succès, ça c'est clair, mais aussi il y a eu une succession d'erreurs, des arguments circulaires, une arrogance extrême, parce que ça quand même c'est assez marqué, manque d'esprit critique et un comportement de type mouton de Panurge. Et H0 dans tout ça. Bon, on peut dire que c'est un défi fantastique. Il ne faut pas que vous oubliez que c'est quand même une tâche absolument épouvantablement difficile. Donc là, j'ai pris un ton un peu ironique, parce qu'on est le 1er avril, mais n'oubliez pas quand même que c'est vraiment difficile à faire. Donc depuis 1931, je crois que la première information intéressante, c'est H0 est mesuré à 10%. Que ça vaille 550, 100 ou 30. Je crois que le mot, c'est quand même halte à la numérologie, parce que c'était... Mais heureusement, on peut dire maintenant, ça se calme bien. Mais il y a encore des sources d'erreurs mal contrôlées qui sont passées sous silence par un certain nombre de gens. Par exemple, la distance du grand nuage de Magellan, il y a encore des discussions là-dessus, ainsi que sur son extinction moyenne. Les supernovas de type 1A, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas aussi des petites choses un peu vasouillardes. Donc, je dirais le mieux, c'est de rester vigilant. Bon, la situation, c'est quand même nettement plus saine qu'il y a 10 ans, ça c'est clair, mais on peut encore avoir des petites surprises. Donc j'insiste quand même, parce qu'après avoir dit tout ce mal, il faut quand même souligner un peu plus. Donc c'est quand même fantastique. Je dirais vraiment, les progrès qu'on a fait dans notre compréhension de l'univers depuis les années 30 sont extraordinaires. Et puis dans la compréhension de la physique des étoiles aussi, c'est vraiment impressionnant. Donc n'oubliez pas que c'est vraiment pas facile et que des centaines de personnes ont fait un travail fabuleux. Bon, parfois, ils sont un peu emballés. Bon, pour ceux qui veulent absolument des chiffres, la valeur actuelle, c'est plutôt les 60-70, un âge de 15 milliards d'années. Non, c'est pas encore. Hein. Et n'oubliez pas ce qui va venir des résultats des satellites MAP, Planck. Donc ça, c'est à suivre. Alors, maintenant, on passe à la phase digestive. Il y a un petit exercice qui peut se faire sur l'amas M3. L'amas M3, c'est l'amas sur lequel travaillait Sandage. C'est à partir de ça qu'il a pu corriger le point zéro de la relation période-luminosité. Dans cet amas, il y a des RR Lyrae. Vous allez voir des points briller, flasher sur l'écran, et vous allez entendre du bruit. Donc, le bruit est associé à la période de pulsation de ces objets. Et vous allez entendre, à un moment donné, une note un peu particulière arriver. Ça, c'est un type de RR Lyrae particulier qui a, en plus de sa pulsation régulière, une modulation à long terme. Donc, c'est parti. Mais il y a encore plus farfelu que ça. On a parlé d'horloges, les céphéides. Ce sont des braves étoiles qui pulsent régulièrement, qui font rien d'extraordinaire. Mais il y a des monstres. Et donc, je vous ai parlé d'un tout à l'heure, qui s'appelle Hirsuti. Hirsuti, c'est ce que l'on appelle une W Virginis, ou une Hervé Tauri. Et c'est une étoile avec un cœur dense et une enveloppe très étendue. Et ça veut dire que la dynamique qui se passe est vraiment compliquée. Et en fait, on peut trouver dedans des signaux du chaos. À savoir, pour arriver à reconstruire la dynamique d'un truc comme ça, c'est en fait un signal chaotique. Donc là, je vais passer sur un petit son. Ce son va être tout d'abord une série de modèles où on va passer d'une pulsation simple, comme une céphéide, au régime chaotique, et ensuite, on entendra deux étoiles chaotiques. La façon dont la transition vers le chaos se produit, c'est que vous avez d'abord, on peut dire, une pulsation simple. Donc si on faisait ça avec une courbe de lumière, on pourrait dire que c'est un truc comme ça. Ensuite, on va passer à une phase où il faut deux cycles pour revenir en fait au point initial. Donc quelque chose comme ça. Donc là, je vous dirais que c'est un doublement de période. Okay. Après, il y a un système où, pour arriver en fait à revenir au point de départ, c'est 4 fois la durée. Et quand on fait des modèles pour essayer de comprendre la physique de la pulsation des étoiles, en touillant certains paramètres, on peut passer d'un modèle où l'étoile est en train de pulser simplement à période double, quadruple, 8, et ensuite, petit à petit, en fait, on s'achemine vers le chaos. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que vous allez entendre à l'oreille, on le reconnaît, le chaos, par rapport à un truc normal. Période simple. Ce genre d'étoile, c'est quand même sympa. Et si vous le désirez, je crois que pour finir, ce que l'on peut faire, c'est je peux vous faire écouter de la musique composée avec comme instrument de musique des céphéides et Erskuti. Alors, pour ça, on passe à l'écran bleu. Oh. Ah, c'est l'inverse. Voilà. Donc, petite musique composée par une des personnes que j'ai mentionnées au début qui s'appelle Zoltán Kolat, qui est un Hongrois, avec qui je travaille. Donc là, on va utiliser l'instrument de musique est une céphéide. Les musiciens, ça doit leur faire mal aux oreilles. Bon, mais une céphéide, c'est pas le pire. Le top, c'est avec le chaos. Donc là, maintenant, l'instrument de musique, c'est Erskuti. Merci.
Poissons, les gros poissons qui sont intéressés au problème. Il y en a eu beaucoup. Je suppose que vous avez des questions ou peut-être l'envie d'écouter encore un peu de musique. En tout cas, allez-y, on a encore du temps et à partager avec Jean-Philippe. Oui. Alors, vous savez, c'est enregistré comme d'habitude.
Avez-vous quelques idées sur les pulsars et plus particulièrement ceux qui ont été détectés dans 47 du Canaé?
Là, j'ai pas suivi.
Il y en aurait une vingtaine au cœur de
pulsars.
Oui.
J'ai pas du tout suivi. Donc je sais pas. J'ai pas regardé.
D'accord. Merci.
Question, oui.
Ça, c'est pour le 1er avril. Que pense de cette musique Dominique Proust ?
Je ne lui ai pas fait écouter. Il faut savoir c'est que c'est, cette musique donc, a été composée par Zoltán Kolát. Donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur les modèles de céphéides. Et lui, c'est un fanatique de musique. Et parmi ses rêves, il y a justement de construire une trompette, enfin de faire construire une trompette, comme celle que vous avez vue de dessiner là-haut. Et puis de trouver des gens pour essayer de jouer. Parce que là, évidemment, ce sont des sons synthétiques.
Oui, quel est le processus physique ? C'est moi qui pose une question, je ne connais rien de ces céphéides. Quel est le processus physique qui fait qu'à un moment donné, justement, on est dans cette séquence d'instabilité ? C'est pourquoi tout d'un coup, les atmosphères semblent s'effondrer tranquillement sur le noyau qui lui a l'air stable, et puis rebondissent comme un ballon élastique, comme ça, et pas avant ni après ?
C'est parce que les conditions de température, de luminosité, dans lesquelles l'objet doit être pour que ce genre de phénomène se produise, et sont en fait très étroites. C'est-à-dire la plage de paramètres qui va permettre ce genre de choses est très fine. C'est-à-dire ce qui se passera dans une étoile qui va par exemple être un peu plus froide, donc qui elle ne pulsera pas, c'est que bien sûr il va y avoir, on peut dire, le musicien en train de souffler, mais le régime d'onde stationnaire ne va pas pouvoir s'établir dedans. Donc il ne se passe rien. C'est comme si j'étais en train de souffler dedans sans faire de bruit.
La question que je voulais poser, c'est où est le musicien ? Quel est le phénomène physique qui assure la présence du musicien ?
C'est la zone d'ionisation partielle entre l'hydrogène et l'hydrogène et la zone d'ionisation partielle de l'hélium. Donc c'est situé à 20%, je pense, de la surface de l'étoile. Donc c'est une couche qui est à environ entre 10 et 40 000 degrés de température. Donc c'est là, en fait, c'est ces phénomènes d'ionisation partielle qui...
À la surface de l'étoile.
C'est pas très profond dans l'étoile. En fait, c'est lié à la forme de la fonction d'opacité. Mais enfin, ça, je pourrais te raconter ça.
Mais après, d'autres questions.
Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu comment intervient la métallicité ?
Alors, pour ça, on a la métallicité. C'est la différence entre celui-là et la machine de David. À savoir, la métallicité va changer, on peut dire, va changer le matériau, enfin, va changer la forme de la trompette, et le matériau dans lequel est fait la trompette, donc les propriétés acoustiques de la trompette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la métallicité, c'est le contenu en métaux moyen dans une galaxie. Donc au début de l'histoire de l'univers, les galaxies, il y avait en gros de l'hydrogène et de l'hélium, et puis quasiment rien d'autre. Et les étoiles, en fait, aux générations successives, vont fabriquer de plus en plus de métaux qui vont enrichir le milieu. Et une galaxie où il va se passer beaucoup de formations stellaires, donc par exemple une galaxie comme la nôtre, où il y a eu de la formation stellaire active depuis très longtemps, va enrichir en métaux. Et donc, une galaxie comme la nôtre va avoir beaucoup de métaux, alors qu'une petite galaxie naine dans laquelle il s'est passé de la formation stellaire, mais assez calme, alors ça s'est arrêté il y a quelques milliards d'années, là-bas, le contenu en métaux va être beaucoup plus pauvre. Donc on peut dire que c'est lié quand même assez fortement à la masse de la galaxie dans laquelle ça se passe. Il y a aussi, un gradient de métallicité entre les zones centrales d'une galaxie et les zones externes. C'est-à-dire, on ne va pas avoir exactement la même chose tout à fait au cœur d'une spirale et le long des bras jusqu'à l'extérieur. Oui. Alors c'est ça. Là, je vais faire un petit dessin. Donc là, Donc là, on va tracer un diagramme à chair, donc avec la luminosité et la température. Donc les céphéides, en fait, elles arrivent de la phase géante. Elles sont en train de brûler de l'hélium dans leur cœur. Et ensuite, elles repartent en phase géante une fois que l'hélium au cœur est terminé. Quand une céphéide est en train de se promener ici, sa période varie. Donc ça veut dire que les céphéides qui ont été observées justement par Henrietta Leavitt au début du siècle, si on arrive en combinant les observations qu'elle a faites avec des observations actuelles, on peut montrer que la période varie. Et suivant la façon... Donc là, la période augmente quand on va vers le bleu et ça diminue dans ce sens-là. Donc on peut, en utilisant les très vieilles données, mesurer des variations de période. Et les variations de période nous disent en plus dans quel sens elles sont en train de se promener au cours de leur évolution. Alors, c'est un effet tout petit. Par exemple, vous allez avoir une période de 4 jours, 223,5, comme ça, et vous allez avoir une variation sur ce chiffre sur 10 ans. Donc, ce sont des effets petits. Il faut savoir qu'à l'échelle de la vie d'une céphéide, on a une vie courte. Ce phénomène-là, c'est en dizaines de millions d'années que ça se compte. Donc la variation de période là, ça va peut-être varier, mettons, entre 5 jours et 4 jours. Et ça va se passer dans... le temps dans lequel cette variation va se passer, ça va être de l'ordre du million d'années. Donc à notre échelle, c'est... Il n'y a pas assez de flux radio pour les observer en radio, mais on les observe avec dans l'optique, à savoir dans toutes les bandes du visible, ou alors des différents filtres. On peut aussi les observer dans l'ultraviolet et jusqu'à l'infrarouge. Donc ce que l'on fait d'habitude, c'est on les observe dans une bande qu'on appelle la bande visible, qui est centrée comme notre œil, une bande qui est dans le proche infrarouge, donc plutôt pas très 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 rouge, et puis une bande carrément dans l'infrarouge un peu plus lointain.
Oui, ça, allez-y.
Les images d'annulation que vous nous avez montrées, enfin les films dans lesquels on voyait pulser ces céphéides, c'était en temps réel ou c'était des images accélérées?
Ah, c'est bien, c'est accéléré. Ces étoiles-là, en fait, c'était des RR Lyrae, c'est la même famille que les céphéides, mais c'est environ 0,5 jours de période. Donc quand on voit un plap, 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 chaque plap, c'est en fait 0,5 jours. Donc en fait, tout ça a été accéléré très significativement.
D'accord, merci.
Une question, une nouvelle question? Non? Oui?
Vous avez parlé des RR Lyrae et des vieilles pulsantes, des vieilles étoiles pulsantes. Est-ce que le phénomène physique, physico-chimique, qui est à l'origine des céphéides, qui cause la pulsation, est-ce qu'elle est le même pour ces vieilles étoiles ou est-ce que c'est complètement différent?
C'est exactement le même, mais la différence principale, c'est que ces vieilles étoiles ont un cœur très dense et une enveloppe très diluée. Et que les mécanismes de pulsation, bien qu'ils aient strictement la même origine, c'est exactement la même physique, c'est beaucoup plus violent. Et aussi, on va dire que c'est quand même une physique, c'est plus instable. Et donc, on peut se retrouver avec des régimes qui ne sont pas juste des horloges, mais avec des étoiles qui sont en train de pulser en mode chaotique ou autre.
Et là, dans cette phase-là, pour ces vieilles étoiles, la période totale de la durée de vie de ces pulsations ?
Alors ça dépend de ça dépend aussi de la masse. Je ne me souviens plus. Mais là aussi, c'est en centaines de millions d'années que ça doit se compter. Aussi. Mais je n'ai plus les chiffres exacts en tête.
J'avais une question sur Sandedge. Sandedge publie toujours sur
ah, oui.
Il est à la retraite depuis déjà pas mal d'années maintenant.
Ah oui, oui, non, mais Sandedge doit. Il est né en 1926. Il a publié un article là, tout récemment, sur les céphéides. Non, il est bon pied, bon oeil.
Très bien. Bien, écoutez, merci encore,
merci.
Jean-Philippe. Et rendez-vous au mois de mai.